Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et Cœur de patrimoine poursuit son voyage au cœur de Patrimonia dans les allées et on est accueilli par David Charlet à l'Anacofi. Bonjour David.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Patrimonia 2024, l'année est déjà quand même très bien entamée. Quel regard le patron de l'Anacofi jette sur cette année 2024 en termes de gestion de patrimoine, bien sûr?
En termes de gestion de patrimoine, une année qui, sur les domaines de l'immobilier, rebondit pas vraiment. Donc c'est un vrai point d'attention. Les cabinets ont l'air de tenir. On a plutôt eu des arrêts de cabinets liés à 2023. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal d'arrêts d'entreprises, mais on a toujours énormément d'entrants. Donc on va dire que ça semble être des années dures. Ce qu'on entend, c'est que les professionnels disent que c'est pas facile. Pour autant, les entreprises tournent. Pour autant, les entreprises qui sortent du jeu sont remplacées par des nouvelles entrantes. Donc ça fait un marché qui est en mutation avec une espèce d'attente. C'est-à-dire que les gens attendent de savoir ce qui va se passer après, pour plein de raisons, parce qu'il y a des textes en négociation à Bruxelles, parce que gouvernement, parce que plein de choses comme ça. Donc on a cette espèce d'ambiance-là. Oh, ce n'est pas les meilleures années de la gestion de patrimoine, ce n'est pas non plus les années catastrophes de la gestion de patrimoine. On le voit ici, on est à Patrimonia, il y a du monde, ça discute. On peut dire que certaines années, il n'y avait pas d'inquiétude. Là, on ne peut pas dire ça. Quand on discute, on sent bien qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes et on n'a pas ça tous les ans. Quand même, mais on n'a pas de crise.
Alors, l'idée de Patrimonia, c'est aussi de parler de cette gestion de patrimoine et de tous les acteurs. Et les différentes associations, syndicats, chambres, etc., font partie de ces acteurs, bien évidemment. 2024, l'actualité de l'Anacofi, les changements, les évolutions, à quoi ça ressemble ?
Les évolutions, elles étaient en chantier déjà depuis quelques années. L'année dernière, on a fini la réorganisation de l'Anacofi. Donc là, on vit avec, on apprend à vivre avec. Les équipes prennent leur place. Les nouveaux présidents, on est à la troisième génération, si on peut dire ça, de dirigeants de l'Anacofi. Donc il y a comme actualité la prise en main. Est-ce que chacun a amené d'évolution dans le concept, même qu'est l'association ? Une DG qui maintenant va être là depuis quasiment 2 ans, donc qui a posé ses marques aussi et ses jalons. On a des schémas qu'on réforme en termes d'animation de l'association. On a réformé tout le digital, ça c'était fini l'année dernière. Là, en termes d'animation des territoires, puisqu'en fait, on est certainement la moins parisienne de toutes les associations de la gestion de patrimoine, avec donc plus de 40 responsables de l'animation dans les territoires. Et on réforme les modèles tout en essayant toujours d'animer les territoires presque tous si possible. Le problème que l'on a, il est très simple, c'est qu'il y a moins de gens qui viennent dans le présentiel, donc il faut imaginer des formats qui sont plus attractifs et qui ne sont pas les mêmes qu'avant pour renouveler tout en gardant ce qui marchait bien. Donc c'est ça l'actualité, plus toutes les négociations. Alors ça s'était un peu arrêté cet été, mais on sait que pas mal de négociations, parce que c'est notre fonction, la représentation, sont dans notre cœur d'actualité dans les mois qui vont venir. Ça a été en début d'année, ça va reprendre là. Voilà l'actualité. Et puis l'actualité, c'est est-ce qu'on va atteindre et dépasser la barre des 8000 entreprises ou pas ? L'année dernière, on était vers 7005. Est-ce que les 8000 seront enfoncés ? Bon, c'est un petit truc chiffré, c'est pas le plus important. Quand on sait qu'on s'était fixé comme objectif maximum un jour dans notre vie 6005 et qu'ils sont enfoncés depuis longtemps. Mais quand même, ça fait un petit enjeu pour toute l'équipe de surveiller les chiffres.
Alors vous avez parlé de négociations, etc. Il y a trois fameuses lettres qu'on évoque ensemble assez fréquemment. C'est bien évidemment la RIS. Qu'est-ce qu'il faut, j'ai presque envie de dire, encore dire sur la RIS?
Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a deux projets, enfin, il y en a trois, mais il y en a deux qui comptent, qui sont posés sur la table et qu'il va falloir les fusionner. Donc ces textes font très peur, mais pas que au CGP. Hein. Ils font peur au monde bancaire, au monde assurantiel, au monde de la gestion, au monde du courtage, au monde de la gestion de patrimoine. Ils font même peur par résonance à des mondes comme ceux de l'immobilier, parce qu'on se dit que ce qui sera fait dans la RIS a des chances d'être copié dans d'autres domaines. Donc ce qu'on peut encore dire, c'est qu'on attend le résultat de cette fusion des textes et que ce n'est pas le système des rétrocessions et donc le modèle en général des CGP qui est en risque, mais en revanche, les modalités de fonctionnement des entreprises sont en risque. Alors, comme on n'a pas de visibilité sur comment ça va atterrir, on sait en tout cas les cartes posées sur la table, on sait les options, mais il y a des options qui ne sont pas gênantes, voire bonnes, il y a des options qui sont véritablement négative et encore pour rester poli. Donc c'est ça en fait. Et là on a un petit sujet, c'est que là où ça aurait dû être clos maintenant, les Hongrois ne le gèrent pas. parce que très probablement, ils sont très peu concernés, parce que la présidence de l'Union hongroise, c'était peut-être pas le meilleur acteur pour gérer ça, parce que c'est pas ce qui l'intéresse le plus, hein, et parce qu'ils connaissent le plus. Donc du coup, on prend du retard, et du coup, tout le monde reste un petit peu en train de planer en attendant de savoir où il doit ou comment ça va atterrir. Et c'est ça, en fait, notre problème de l'ARIS. Mais vraiment, vraiment, on sent ici que ça, c'est un des sujets qui les inquiète. Hein, comment ça va atterrir et quelles nouvelles contraintes ?
J'ai envie de dire qu'il y a un autre endroit où on plane un peu. Ça concerne l'Hexagone et la politique. On a eu la dissolution, on a eu toute cette campagne, on a eu cet été en attente d'un Premier ministre. Ça y est, on a un gouvernement. Quel est le message, finalement, que David Charlet, au nom de l'Anacofi, bien sûr, a envie d'adresser au nouveau gouvernement ? Je vous oriente un peu dans le message. Il concerne la fiscalité. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de questions. On entend parler d'ISF, on entend parler de suppression ou pas de l'avantage lié à la résidence principale. On sait qu'il y a des histoires autour de la LNMT. On sait qu'il y a ces questions éventuellement de TVA, de droits de succession. Enfin, voilà. On a l'impression qu'on en avait terminé depuis des années avec l'instabilité fiscale et qu'on pourrait en remettre une grande dose. Alors, je ne veux pas vous forcer à aller sur ce terrain-là. Vous êtes libre de votre question ou de votre suggestion au gouvernement, David. Mais voilà, c'est l'élément de réflexion qui motive, on va dire, ma question.
Bon, il y a trois domaines dans lesquels on les attend assez fortement. On pourra en rajouter plein, mais il y en a trois qui doivent être traités très vite. Le premier, c'est qu'on parlait de la RIS il y a deux minutes. Cette RIS est en cours de négociation et maintenant, c'est à la main des États de pouvoir encore influer sur le texte. On a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il se trouve quand même que je rappelle qu'il connaissait bien le monde de la gestion de patrimoine. C'est à la base un économiste. C'est un gars de MIT. On se connaît depuis très longtemps parce qu'il est dans cet écosystème. Il faut qu'il comprenne les enjeux et que notre ministre des Affaires étrangères et de l'Europe tienne la position qui était la position française depuis un moment. Et qu'on puisse compter sur lui. Ça, c'est absolument vital. S'il ne le fait pas, de toute façon, 80 à 90 000 entreprises en France seront en danger. Donc là, on ne discute pas. Nous, ça va être dans nos priorités d'accéder à son cabinet et d'obtenir que vraiment, il tienne les rênes et il ne lâche pas les Français que nous sommes, plus exactement le modèle français que nous ne sommes pas les seuls à avoir et qui est un des modèles leaders en Europe, si ce n'est le modèle leader en Europe. Et il y a un enjeu en dizaines de milliers d'entreprises. Voilà. Et là, pour le coup, ça me paraît central. Ensuite, il y a un deuxième domaine qui est l'immobilier, qui est dans un état catastrophique. Et le gouvernement d'avant envisageait de prendre des décisions. Alors, bonnes ou mauvaises, il y avait plusieurs choses sur la table. Tout s'est arrêté. Il faut qu'on reprenne ça et qu'on re-rentre dans des discussions et que les choses qui soient faites soient intelligentes et aident à relancer ce marché qui est dans une situation qui est catastrophique. Oui, pour certains, c'est en tout cas ce qu'ils estiment. En tout cas,
mais au moins, on a un vrai ministre de plein exercice sur le logement.
Alors, tout à fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, faudra voir ce que signifie ministre de plein exercice avec un gouvernement qui n'a pas de majorité au Parlement et qui pourrait n'être que technique. Mais enfin, même s'il était que technique et qu'il reprenait certains des projets, que des discussions se réenclenchent sur la base de projets qui étaient sur la table avant l'été, oui. Il se passera quelque chose et il faut qu'il se passe quelque chose. Troisième point, c'est la fiscalité. Alors oui, sur la fiscalité, on est tous d'accord. Je veux dire, il n'y a pas un pays au monde où les acteurs de l'économie ne disent autre chose que de la stabilité. Un impôt correct qui génère ce dont l'État a besoin, un État qui dépense pas trop, et puis de la stabilité. Ce que tout le monde déteste, c'est l'instabilité. C'est dans toutes les périodes où ça a changé tous les deux ans parce que c'est trop fréquent, eh bien, ça provoque quelque chose, c'est qu'en moins de deux ans, on ne peut même pas adapter un écosystème, on ne peut pas adapter les conseillers, les citoyens n'ont pas le temps de s'adapter à la nouveauté, etc. etc. Donc, il y a un vrai enjeu de stabilité, et puis on parle de tellement de choses qui pourraient bouger que va falloir faire des choix s'ils veulent faire quelque chose. Et il faut, s'ils doivent toucher à l'impôt, il faut toucher peu de choses et qu'elles soient efficaces. Bien sûr, nous, on serait... dans les positions de l'Anacofi, il est écrit « n'augmentez pas les impôts hein, ». Donc, on est très clair. Maintenant, on est conscient que c'est peu probable et que si des choses doivent bouger, alors il faut qu'elles soient faites de façon intelligente et que ce ne soit pas tout qui bouge. Pas à la De Gaulle. De Gaulle avait tout bougé quand il était arrivé pour rétablir les comptes de l'État. Bien malheureusement, là, je pense qu'on n'est pas dans une situation où on pourrait le faire. On mettrait un bazar considérable. Donc, si ça doit être sur quelques éléments, il faut bien les choisir. Il y en a qui sont stupides. Il y en a qu'il ne faut vraiment pas prendre. Il y a des axes comme, par exemple, réformer la fiscalité de la résidence principale. C'est une des plus immenses conneries qu'on puisse faire. Ça n'a pas de sens parce qu'en plus, ce dont on parle, ça n'est pas revenir à l'ancienne règle. et l'ancienne règle, elle avait du sens, mais il ne faut pas oublier que dans ce cas-là, les intérêts d'emprunt pour les résidences principales étaient déductibles. Enfin, il y avait un cadre qui n'était pas simplement dire « on taxe ». Voilà. Donc ce serait vraiment bête. L'ISF, c'est un impôt qui est mauvais, mais au moins il a un avantage pour nous, les CGP, c'est que dès qu'il y a ISF, il y a utilisation des CGP. Donc c'est le meilleur élément vendeur, c'est même on nous offre un commercial pour tout l'univers des avocats, des CGP, de ce que vous voulez, mais en soi, c'est pas un bon impôt. Pourront-ils faire l'économie de leur mettre en place vu les demandes ? On verra bien, mais de toute façon, quoi qu'ils fassent, il faut que ce soit sûr, avec peu de décisions. Et il faudra ensuite, de toute façon, que ça garde une stabilité. Et puis, bien sûr, il faudra que ce soit intelligent. L'ISF, tel qu'il était fait, était aussi en lui-même bête dans sa mécanique. Donc, même si ça en revenait à ça, nous ne désespérons pas. Si jamais tout ça se mettait en place, nous serions auditionnés. Ça a toujours été le cas, pour le coup. Mais il faudrait nous entendre, parce que nous représentons ceux qui conseillent les citoyens. Donc on a une petite idée de ce qu'ils accepteraient, n'accepteraient pas, de ce qu'est un riche, ce qu'est un pauvre. Voilà, j'entendais les rémunérations de ce qu'est un riche aujourd'hui. Il faut dire que ce qu'on entend de certaines associations, si ça c'est un riche, alors on est riche très vite, et surtout en étant un petit cadre, il faut s'en rendre compte, ou en étant un petit patron qui bosse de chez lui sans avoir de salarié. Est-ce que c'est vraiment un patron? C'est une question. Voilà ce qu'on vient taper, quoi.
Merci beaucoup, David, d'avoir accepté cette invitation et ce franc-parler qu'on apprécie toujours très nettement sur Radio Patrimoine. Donc Cœur de Patrimoine qui poursuit son petit voyage dans les allées de Patrimonia.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.